Et pour ce dernier dimanche de l'Avent, je vous propose quelques lectures bibliques. Vous allez peut-être être étonnés, elles ne sont pas en lien direct, pensez-vous en tout cas, avec Noël, mais pourtant il y a beaucoup de cette histoire de la naissance de Jésus dans ces textes également. Première lecture dans le livre de la Genèse au chapitre 2, versets 4 à 9. Voici les origines du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste dans la campagne sur la terre, et aucune herbe de la campagne ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 11, les deux premiers versets que nous voulons d'ailleurs de chanter à travers ce cantique d'un arbre séculaire. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et le rejeton de ses racines fructifiera. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Puis les trois premiers versets du psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et donne le feuillage qui ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et enfin, les cinq premiers versets du 22e chapitre, c'est-à-dire le dernier chapitre de l'Apocalypse selon saint Jean. Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Les serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus. Ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils règneront au siècle des siècles. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Amen. Chaque année, donc, nous célébrons Noël, c'est-à-dire la naissance de Jésus. Alors aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait Noël, mais c'est tout de même le premier jour de l'hiver, donc le jour le plus court de l'année. Et comme vous le savez, je pense qu'on l'a dit chaque année, on le répète, et peut-être que je l'ai déjà dit cette année d'ailleurs, cette naissance au cœur de la nuit, au cœur de l'hiver, est déjà en elle-même le temps de la naissance au milieu de la nuit, pleine de symboles. Eh bien, symbole que l'on retrouve d'ailleurs, on ne peut pas s'y tromper, dans toutes nos villes qui sont illuminées. Ainsi, ces illuminations qui peuvent sembler quelque peu païennes, et puis finalement, maintenant, plus les artères sont marchandes et plus on les illumine, certainement pour nous inciter à mieux consommer, on pourrait s'en plaindre et puis être assez grincheux et dire tout cela maintenant. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est le sens de l'Évangile? Eh bien, j'ai envie de faire le pari, de garder cette joie, de garder ces lumières qui sont le symbole de ce tout petit qui vient au milieu de la nuit nous annoncer la joie, nous annoncer l'amour. Parce que cette naissance, en effet, c'est la venue du Christ, lui dont il nous est dit qu'il est la lumière du monde, lui qui est lumière, comme nous le rappelle dans l'Évangile l'évangéliste Jean. Le Christ, c'est la lumière. Il est bien là, au cœur de nos nuits, au cœur de nos obscurités, pour nous donner la joie de la lumière, pour nous éclairer lorsque nous sommes perdus dans les ténèbres. Alors, c'est vraiment ce beau symbole de la lumière que j'aime. Et finalement, j'aime Noël, j'aime ces rues illuminées, j'aime ces musiques, la clochette de l'armée du salut et tout ça, etc., etc. L'armée du salut, en parlant de la clochette, cette année, il y a une clochette virtuelle, si vous voulez donner à l'armée du salut, vous tapez « marmite de l'armée du salut », vous allez tomber sur une clochette virtuelle et vous pouvez donner. Vous voyez que finalement, tout le monde se met au goût du jour. C'est dommage, moi j'aimais bien le bruit de la clochette au coin de nos rues, mais bon, il paraît que ça ne rapporte plus. Donnons sur Internet. Donc Noël, c'est la fête. C'est la fête, c'est les familles qui se regroupent avec plus ou moins de joie. Noël, c'est la fête, on nous apprend et nous avons ce bonheur de nous retrouver. Et puis, eh bien, il y a certainement des gens seuls aussi. Alors ne les oublions pas, pas au moins leur parler, leur tendre la main. Et puis, si vous êtes seuls à Noël, quelques-uns d'entre vous, il y a des lieux où on peut se regrouper, plein de lieux où on peut, eh bien, au lieu de rester seul, aller partager avec les autres, aller même donner aux autres. C'est cela le sens de Noël, le partage, le don, la lumière qui vient nous éclairer et qui nous invite justement à regarder les autres. Alors, finalement, quel rapport avec nos textes? Pas beaucoup. Pourtant, il y a un symbole à Noël. Alors, cette année, il est bien grand, bien illuminé. Chaque année, on essaye de faire mieux. Alors, ce n'est pas facile, hein, parce que pour trouver des grands sapins comme ça, eh bien, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Pour les monter, ce n'est pas si simple. Et puis, alors, pour éclairer en plus à cette hauteur-là, ce n'est pas simple non plus. D'ailleurs, on a eu du mal avec l'étoile. Ça se voit, elle est un peu de travers, mais vous ne nous en voudrez pas. Ce n'est pas grave. Et il est très beau quand même. Donc, le symbole, c'est le sapin. Alors, nombre de personnes pensent que c'est un symbole païen. Bon, peut-être. En fait, pas tant que ça. Mais même si c'est un symbole païen, finalement, moi, je l'aime bien. Parce que, en moi, et puis après tout, en chacun d'entre nous, il y a, eh bien, un païen ou une païenne qui sommeille, en quelque sorte. Eh bien, ces symboles qui font appel à cette partie de moi m'invitent aussi, eh bien, à me tourner vers ce petit qui vient de naître et qui, lui, n'est pas un symbole et n'est pas païen. En chacun d'entre nous, en effet, il y a quelque chose de païen qui a toujours besoin de se convertir. Alors, nous ne pouvons pas rejeter des symboles qui peuvent nous sembler en quelque sorte païens. Mais en réalité, le sapin, c'est pas si païen que ça. Parce que d'abord, bon allez, on va faire un peu. C'est un symbole qui a été introduit par les protestants en Alsace pour justement, parce qu'ils trouvaient que les crèches étaient païennes. Vous savez, c'est bon, moi j'ai une crèche chez moi et puis chaque année j'achète deux ou trois petits santons, histoire, bon ça, là elle commence à être remplie. Mais j'adore, vraiment, j'aime beaucoup les crèches aussi. On peut, mais les premiers protestants, dans leur rigidité, refusaient les représentations et donc la crèche. Donc pour Noël, il fallait quand même quelque chose. Donc ils ont mis un arbre, un sapin, puisqu'on était en Alsace. Et puis le sapin, il a cette chose extraordinaire, c'est qu'il est vert tout le temps. Hein, vous savez, il y a un cantique, mon beau sapin, que j'aime ta verdure. Et en fait, jamais, en fait, les aiguilles Même si elle tombe suffisamment doucement pour que d'autres puissent repousser entre-temps. Il est vert tout le temps, donc il est en quelque sorte symbole de vie. C'est un arbre de vie. On parle beaucoup d'arbre de vie dans la Bible. Eh bien, le sapin est arbre de vie. Donc, finalement, ce n'est pas quelque chose de si païen que cela. Et puis, cet arbre, on le trouve dans la Bible. Cet arbre, peut-être pas le sapin, parce que quand Jésus est né à Bethléem, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de sapins. Et puis, quand on nous parle d'arbre de vie, on ne nous dit pas comment il est. Et puis même, si vous avez entendu, dans le livre de l'Apocalypse, on nous dit à la fin, qu'il donne 12 récoltes par an, c'est-à-dire une par mois, continuellement, en fait, il donne du fruit, et du fruit de guérison. Alors c'est vrai que les pommes de pin, quand on est enrhumé, à respirer, c'est pas mal, mais enfin bon, il n'y a pas 12 récoltes par an, et puis ça ne guérit pas tout. Et puis quand l'Apocalypse nous parle de guérison, c'est aussi bien des maux physiques que des maux spirituels et psychiques d'ailleurs. C'est une guérison complète. Donc cet arbre de vie que l'on trouve au début de la Bible et à la fin de la Bible n'est certainement pas un sapin, mais peu importe. Donc, l'arbre de vie est présent déjà, vous l'avez entendu, dans le jardin d'Éden, et on le retrouve dans la Jérusalem céleste. Et le symbole de l'arbre va traverser, en fait, toute la Bible. Alors, j'ai lu quelques textes, alors celui d'Isaïe, alors là, on est en plein symbole, lorsqu'on nous dit que du vieux tronc d'Isaïe va survenir le Messie. Isaïe, alors en fait, c'est le problème de traduction, c'est Jessé, le père de David, vous savez. Donc, en fait, c'est le même mot en hébreu, et nos Bibles traduisent parfois différemment. Donc, il s'agit d'un arbre, d'une maison, d'une sorte d'arbre généalogique, de ce vieux tronc, ce tronc qui remonte eh bien, à Abraham, à Adam, encore plus haut, de ce vieux tronc va jaillir, et duquel il va y avoir David et tous ses successeurs, eh bien, de ce vieux tronc d'Ésaïe, en quelque sorte, surgit la nouveauté, la beauté, va surgir ce petit qui vient en rupture avec tous ceux qui l'ont précédé. Ce vieux tronc d'Ésaïe qui intervient tout de suite dans l'évangile de Matthieu, vous savez, on nous dit... À l'entrée de l'évangile de Matthieu, on nous donne toute cette généalogie du Christ, dans lequel d'ailleurs on trouve Jessé, Isaïe, David et tout. Mais dans cette généalogie, il y a beaucoup de violence aussi. Il y a plein de choses absolument abominables, des incestes, du meurtre, tout ce que l'on veut. Eh bien, la naissance du Christ vient nous dire que justement, cet arbre dont on serait héritier, eh bien nous pouvons rompre. Lui, il a rompu. Il a rompu avec tous ses ancêtres. C'est possible, c'est possible. Avec Dieu, tout est possible. On peut rompre avec un passé mortifère et nous tourner vers l'avenir. Parce que c'est ça que nous dit aussi la naissance du Christ. Se tourner vers la lumière qu'il est, se tourner vers un avenir possible, malgré tout ce qu'il peut y avoir derrière nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire table rase du passé, mais en réalité, ça veut dire que si le passé est trop lourd, eh bien nous, on est différents. Avec la venue du Christ, eh bien voilà ce qui s'offre à nous, un monde nouveau, une terre nouvelle, une vie renouvelée, et qui peut être en rupture totale avec ce qui s'est passé avant. C'est cela, un peu, déjà la première image de l'arbre que l'on trouve dans Ésaïe. Et puis, dans le psaume, le psautier, vous savez, c'est quelque chose d'essentiel dans la Bible hébraïque. Eh bien, le psautier s'ouvre avec cette image de l'arbre. Heureux l'homme qui suit les chemins du Seigneur, de l'Éternel. Il est comme un arbre là, au milieu de l'eau, qui est bien, qui pousse bien. Un arbre que Dieu abreuve de cette eau vivifiante, continuellement cette eau qui coule et qui lui permet de vivre, de prospérer, de donner de l'ombre à ceux qui viennent se reposer en dessous de lui, de donner du fruit aussi en son temps et en son heure. Cet arbre magnifique, eh bien, c'est moi. C'est vous, pas n'importe quand, hein, quand on entend l'appel de Dieu. Et quand on n'entend pas l'appel de Dieu, eh bien nous le savons, nous pouvons tout simplement nous présenter devant lui en lui disant « Seigneur, peut-être que nous sommes un arbre, mais actuellement Nous manquons de force, nous manquons de cette eau que tu nous offres, et puis nous sommes sans fruits. Alors, donne-nous, Seigneur, donne-nous l'amour, la joie, donne-nous la force aussi de porter à nouveau du fruit et de partager avec les autres, parce que c'est ça, porter du fruit, et bien de partager avec les autres cette bonne et belle nouvelle que tu nous offres à Noël, c'est-à-dire la nouvelle que toi, tu es venu sur terre, tu es venu là, à nos côtés, pour nous dire tout simplement, eh bien, je suis avec toi. Et que ta présence à mes côtés, eh bien, fait que je puisse porter du fruit encore et encore. Ainsi, cet arbre est présent tout au long de la Bible, avec, en quelque sorte, des manières de l'interpréter différemment. Donc, c'est très bien qu'il y ait un arbre à Noël, ici. Et puis, j'espère que l'année prochaine, bah, peut-être il sera encore plus grand. Alors, oui, mais ça, c'est la nostalgie de quand j'étais très jeune. Il y avait des énormes arbres. À l'époque, on avait encore le droit d'allumer des bougies. C'était il y a très, très longtemps. Mais donc, et c'était très, très joli parce que la lumière plus l'arbre, c'est aussi cela, le symbole de Noël. Et on trouve donc l'arbre au début. Au début, à la Genèse. Alors, vous l'avez entendu, au début, à la Genèse. Je voudrais juste dire quelque chose, si on fait attention. Tous les débuts d'évangile nous parlent de la Genèse. Chez Marc, chez Luc et chez Jean, le mot « commencement » intervient alors, soit au tout début, soit dès le deuxième ou le troisième verset chez Luc. Alors on entend bien que ce « commencement » nous renvoie au tout début de la Genèse. Chez Matthieu, c'est un petit peu plus subtil. Et puis alors évidemment, c'est pour ça qu'il y a des cours de grec et d'hébreu ici. Ça nous permet d'aller voir un peu plus profondément ce qui se cache derrière les mots. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, dans la traduction que j'ai lue du début, on nous dit « Genèse des cieux et de la terre ». Et puis, si vous ouvrez vos Bibles, et puis le premier mot dans l'évangile de Matthieu, la plupart du temps, est traduit par « généalogie de Jésus-Christ ». En réalité, c'est le même mot. C'est un mot qui dit la naissance, justement. Ça vient de l'hébreu « enfantement ». C'est le mot qui est souvent traduit, d'ailleurs, par « généalogie ». Mais ça coince un peu quand il s'agit de la généalogie des cieux et de la terre. C'est pas terrible. Certaines Bibles si le font, mais ça signifie rien. Donc, vous voyez tout le problème de la traduction et tout l'intérêt d'aller voir les textes et de voir quels sont les mots qui se cachent derrière les textes, l'histoire de ces mots. Eh bien, en réalité, cela, quels que soient les évangiles, cela nous parle à la fois de création et de naissance. Et que cette naissance est à renouveler. La création, ce n'est pas quelque chose de fini. Dieu a créé en 5400 et quelques avant Jésus-Christ les cieux et la terre, et puis il est parti. Maintenant, Noël, ça nous dit tout le contraire. La création n'est jamais finie. Dieu n'est pas parti, il est là, présent, à nos côtés. Et il nous offre cette naissance du Christ, cette naissance de lui qui vient sur terre pour être à nos côtés aussi, pour que nous puissions la prendre comme une nouvelle création. Et que nous soyons, nous aussi, des nouvelles créatures. Avec la venue du Christ, eh bien, c'est cela qui nous est dit. Nous renvoyons à la Genèse ce récit où Dieu crée l'humain et où Dieu crée les arbres. Alors, vous me direz, il y a un autre arbre dans la Genèse. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cet arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, il disparaît dans l'Apocalypse. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant aussi de voir que cet arbre est présent au début et à la fin. Mais si on fait bien attention, il est présent au début dans un jardin et à la fin dans une ville. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Déjà, la disparition du premier arbre. Eh bien, cela signifie tout simplement que ce qu'on nous annonce à la fin de l'Apocalypse, ce n'est pas du tout un retour dans un paradis perdu. La Bible prend acte du premier geste, du geste d'Adam et Ève qui ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme, eh bien, a cette connaissance. Et après tout, peut-être, tant mieux. En tout cas, il n'est pas question de revenir en arrière là-dessus. Eh bien, c'est fait. Mais Dieu continue à donner cet arbre de vie avec cet arbre qui produit du fruit pour la guérison. Parce que on a la connaissance du bien et du mal, mais nous le savons bien, nous n'avons pas forcément la force et puis ce qu'il faut en nous pour faire le bien et éviter le mal. D'ailleurs, ça c'est le mal, c'est une vraie question qui est au cœur de la Bible tout le temps. Eh bien, à la fin, la promesse, l'arbre est une promesse de vie, comme cet arbre qui ne perd jamais ses épines. Il y a quelque chose qui nous dit que la malédiction est dernière nuit. Il ne faut surtout pas revenir en arrière. L'anathème, en quelque sorte, la malédiction, eh bien, qui est sur Adam et Ève, est désormais balayée, complètement évincée. C'est ainsi ça, la venue de Jésus. Jésus, en quelque sorte, qui nous promet et qui nous montre une nouvelle humanité, une humanité réconciliée qui ne peut se vivre autrement que dans la violence. Ainsi, la disparition de l'arbre de la connaissance du bien et du mal nous dit tout simplement que cette Jérusalem céleste qui nous est promise, mais que nous avons à construire, parce qu'elle ne va pas arriver comme ça, on a quelque chose à y faire tout de même. Parce que l'Apocalypse, ce n'est pas uniquement une vision eschatologique, c'est aussi vivre le présent afin que la promesse puisse advenir. Et ça, c'est de notre responsabilité. Ainsi, cet arbre de vie nous est offert pour que nous puissions être guéris. Quoi qu'il arrive, quels que soient les maux dont nous sommes atteints, eh bien, Dieu et le Christ particulièrement sont là pour nous guérir, en quelque sorte. Cela nous ramène vers cette libération promise où nous n'aurons plus besoin de lumières artificielles. En quelque sorte, la lumière sera là, les ténèbres seront balayées. L'arbre est là, cet arbre, arbre de vie, arbre qui revit. Parce que, vous savez, j'ai dit qu'au début, le tronc d'Isaïe, au début de l'histoire de Jésus, il y a un arbre, mais à la fin aussi, il y a un arbre. Cet arbre, c'est la croix. Et souvent, on dit, les chrétiens, c'est à Noël, c'est à Pâques, d'autres disent, c'est à Noël. Moi, je dis que Noël et Pâques, ça se tient ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Eh bien, cette croix est faite avec un tronc d'arbre mort. Mais cette croix, pourtant, pour les chrétiens, c'était difficile au début, peut être symbole de vie. Parce que la venue du Christ sur terre, c'est pour nous dire que la naissance est toujours et encore possible, que la vie et l'amour sont bien plus forts que la mort. Et puis j'aime, parce qu'il y a des symboles dans la croix aussi peut revivre. En quelque sorte, vous savez, la plupart d'entre vous, vous le savez, je suis d'origine arménienne, mais chez les Arméniens, vous allez partout en Arménie, il y a ces rashkars, ces croix de pierre sur laquelle est représentée la croix arménienne. Elle est magnifique, cette croix, parce qu'elle fleurit. C'est une croix, c'est plus du bois mort, cette croix fleurit. Ce bois mort, grâce à la venue du Christ, grâce aussi, ou à cause, je ne sais pas, parce que c'est quelque chose de difficile, la traversée de la vie, de l'humanité, jusqu'à la mort. Mais il est venu pour nous dire aussi que la mort n'est jamais la fin. Alors aujourd'hui, nous fêtons sa naissance. Et en effet, c'est ce qui nous est promis à la fin de l'Évangile, à la fin de l'Apocalypse. Et je vais revenir. Pourquoi dans une ville? Eh bien moi, j'aime, et en plus je trouve que c'est tout à fait d'actualité, j'aime ce symbole de la ville. Parce que le jardin, c'est très bien, c'est très bucolique. Mais un jardin fermé, finalement, comme est le jardin d'Éden, puisqu'on les jette dehors, donc c'est bien qu'il est fermé. Le jardin fermé, ça a toujours été le privilège des despotes. Depuis l'Antiquité, dès que quelqu'un avait du pouvoir, il faisait construire un palais et un jardin fermé. Le jardin fermé, c'est le privilège des despotes, en quelque sorte. Eh bien, la ville, par contre, c'est le lieu où les humains habitent. C'est le lieu où nous nous rencontrons et où nous sommes invités à vivre ensemble. Cette Jérusalem céleste, eh bien, elle nous est promise, mais elle est déjà là. Alors, c'est peut-être pas le Paris éclairé de Noël, mais pourtant, c'est à nous de faire pas à pas, construire pas à pas, eh bien, un monde meilleur. C'est ce à quoi nous sommes invités pour que la Jérusalem puisse venir vers nous. Et puis j'aime ce symbole de l'arbre au milieu de la ville. On ne nous demande pas d'aller habiter à la campagne, puisque si tout le monde habite à la campagne, de toute façon, tous les territoires sont occupés. Non, on nous demande d'habiter ensemble et de mettre du vert, là, au cœur de nos vies. De mettre de la vie, de mettre aussi de la nature, pourquoi pas. Et c'est ce qu'on fait hein, de plus en plus quand même, parce qu'on voit bien que on construit plus les villes comme on les construisait avant, et même on essaye de mettre de l'espace, du frais, du vert dans nos vies, c'est-à-dire aussi du souffle dans nos villes et du souffle dans nos vies. Ainsi, la venue de Dieu sur terre, la venue de Dieu qui se révèle dans notre humanité, nous dit tout cela, que désormais, et bien désormais, avec Noël, nous célébrons une naissance, reconnaissant ainsi tout ce qu'il peut y avoir de fragile, mais tout ce qu'il peut y avoir de génial en chacun d'entre nous. Cette naissance nous offre l'amour. L'amour qui a la capacité de nous arracher à l'égoïsme. L'amour qui nous permet de recommencer l'humain, là, au cœur de ce que nous sommes, au cœur de nos vies et au cœur de nos vies.